À cause de la fidélité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous tous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, notre frère, dans la vérité et dans l'amour. C'est avec ces mots que l'apôtre Jean commence sa deuxième lettre. Et c'est ainsi qu'il exprime la joie qu'il a de vivre par l'Évangile. Amis, frères et sœurs, que cette joie soit la nôtre ce matin et au-delà de ce temps de culte. Et puissions-nous la partager non seulement les uns avec les autres, mais avec tous ceux que nous rencontrerons, afin qu'en la partageant, cette joie se multiplie. Je vous invite à prier. Gardien des profondeurs du cœur, chemin sous les pas des voyageurs de la vie, nous voici. Terre promise, terre d'asile, royaume déjà présent, nous voici. Alpha et Oméga, commencement et fin, Orient de notre terre, nous voici. Source cachée au cœur du monde, intarissable et généreuse, nous voici. Éternel, que ton esprit nous réunisse en assemblée de reconnaissance, d'écoute, de prière. Amen. Et nous nous levons pour chanter le premier des spontanés de la feuille de chant. Restons debout et en communion les uns avec les autres et avec ceux qui nous ont rejoints par l'intermédiaire des réseaux sociaux, nous louons l'Éternel. Oui, nous te louons, Éternel, car nous voyons en toi celui qui donne la vie, le mouvement et l'être. De toi, nous recevons la vie. Tu n'as pas laissé le Christ dans les liens de la mort, mais tu l'as suscité à nouveau, vivant. Tu viens, Éternel, tel un océan, façonner les rivages de notre existence, et chaque vague de ton esprit est pour nous flot d'enthousiasme ou calme reflux. Tu nous mets en mouvement. Même quand notre corps est affaibli, avec toi, notre existence s'anime. Et plus encore que notre corps, tu habites nos pensées, nos émotions, nos silences et nos paroles. Alors, dans l'immobilité même, il nous est possible de te contempler. par toi qui es de toute éternité et qui nous connais, nous pouvons dire « Je suis » sans orgueil ni vanité. Loué sois-tu, éternel notre Dieu. Amen. Et nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 67, « Que Dieu nous bénisse et nous garde ». Prenez place. Et nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies avec ce texte que Béatrice va nous dire.
Bénis soient les humains qui sont bons, la main qui ne frappe pas, la bouche qui n'insulte pas. Bénis soient les miséricordieux. Ceux qui sont accueillants, ceux qui consolent, ceux qui aident. Bénis soient les riches pour les pauvres et les pauvres pour les riches, les savants pour les ignorants et les ignorants pour les savants, les vieux pour les jeunes et les jeunes pour les vieux, les forts pour les faibles et les faibles pour les forts. Bénis soit celui celle qui choisit avec justesse et pour la justice, ne cédant à aucun pouvoir, à aucune peur. Béni soit celui, celle qui parle sans préjugé et aime sans préjugé tout ce qui vit.
Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession.
Au matin de ce jour, Éternel, je me tourne vers toi. Tu m'attends, tu m'accueilles, et je me laisse aimer par toi. Tu es celui qui m'entraîne en avant. J'ai peur de ne pas y arriver. Peur de ne pas savoir rester près de toi, de m'échapper. Mais ta grande patience me précède et jamais tu ne te lasses. Auprès de toi, je suis en vie. Alors, voici tout ce qui me semble insurmontable, ce qui me pèse trop. Voici ce qui me déchire, ce qui me fait peur, ce qui me donne envie de fuir. Au matin de ce jour éternel, je veux choisir avec toi la confiance. Tu es mon Dieu. Amen.
Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce de la grâce de la part de l'Éternel. Avec ce texte de la pasteur Francine Carillo. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse. Je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez, et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas triste et sans espérance, parole de Dieu. Mon pardon vous a déjà rejoint. Écoutez, et vous vivrez. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance avec le cantique 253, Chantons de joie.
Thank you.
Et nous prions avant de lire dans les Écritures. Dieu notre Père, garde-nous disponibles pour tout ce que l'Esprit veut nous inspirer. Que cet Esprit nous ouvre ta parole, qu'il y élargisse notre âme et notre intelligence, qu'il anime nos initiatives et notre action. Ainsi nous pourrons accomplir, chacun et ensemble, la destinée à laquelle tu nous appelles. Amen. Bien, c'est porté par le culte de l'Ascension et la prédication de notre ami le pasteur Laurent Gagnebin que je vous invite à lire et à méditer ce matin dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, les versets 1 à 17. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Pendant le dîner, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ». Jésus lui répondit « Ce que moi je suis en train de faire, toi tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or, vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. » Amen, amen, je vous le dis. L'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que vous le fassiez. Combien de fois croyons-nous que nous sommes petit, faible, incompétent, illégitime. Combien de fois croyons-nous ne pas être capable ou ne pas être digne d'être qui nous sommes appelés par Dieu à devenir ? Combien de fois croyons-nous qu'il faut grandir, nous grandir par nous-mêmes à la force du poignet, à la somme de nos mérites, à la valeur de nos qualités. Combien de fois croyons-nous que nos erreurs sont comptées, que nos manques sont retenus, que nos fautes sont conservées. Nous ne le disons pas toujours à haute voix, pas même à nous-mêmes. Parfois seulement une ébauche. Oui, la grâce est offerte, mais quand même, il faut une balance de justice, des mesures pour bien compter, des échanges bien organisés, des compensations, des règles, de l'ordre, des dirigeants, d'autres qui obéissent et chacun à sa place. Sinon, le monde ne ressemblerait à rien et ce serait n'importe quoi. Cela, c'est certainement ce que le disciple Pierre a en tête lorsqu'il refuse que Jésus lui lave les pieds. C'est comme si Jésus mettait le monde de Pierre sans dessus-dessous. Dans le monde de Pierre, mais pas que de Pierre, le Seigneur doit être à sa place de Seigneur, en haut, et les disciples à leur place de disciples, en bas. Moyennant quoi, tout va bien. Dans ce monde-là, chacun sait quelle est sa place et qui il est. Pierre est disciple et heureux de l'être, disciple du Seigneur, Jésus, en qui il reconnaît le Christ. Ceux qui lavent les pieds, ce sont les esclaves à leur maître, les enfants à leur père. Celles qui lavent les pieds, ce sont les épouses à leur époux. Mais pas le contraire, surtout pas. Pierre serait tout à fait prêt à laver les pieds de Jésus, le Seigneur. Mais il n'est pas du tout disposé à ce que Jésus lui lave les pieds. Chacun à sa place, sinon comment s'y retrouver? Il y a un minimum à conserver et à respecter tout de même, dit Pierre, qui ne se retrouve pas comme disciple et ne retrouve pas son Seigneur dans le geste de Jésus. Et Pierre est profondément déstabilisé. Il ne peut pas imaginer une relation avec Jésus autre que celle d'une structure hiérarchique à laquelle il adhère pleinement de tout son cœur en toute connaissance de cause. C'est dans cette structure qu'il sait qui il est, un disciple du Seigneur. Seulement, si le Seigneur n'est plus le Seigneur comme Pierre le croit, alors lui, Pierre, n'est plus non plus un disciple, comme il croit, comme il veut être. Et c'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds que Jésus veut laver. Et c'est bien ce que fait Jésus, ce qu'il fait et signifie en lavant les pieds de ses disciples. Il les introduit dans une autre relation avec lui, que celle d'une relation sur le modèle de l'échelle, les uns en bas, les autres en haut. Une relation relevant d'une autre structure que le mode de la hiérarchie, pourtant abondamment décliné dans les sociétés humaines, y compris religieuses. Jésus invite les disciples à renoncer à préférer, à renoncer à vouloir être serviteurs au sens mondain du terme, comme il a déjà lui renoncé à être maître et seigneur au sens mondain du terme. Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, donne forme à l'Évangile, à la bonne nouvelle, la forme d'une égalité qui n'abolit pas les différences, la forme d'une amitié, voire d'une fraternité, qui consiste en une attention et un soin mutuel, et la forme de la liberté de ne pas soumettre autrui à soi, ni à qui que ce soit. Il serait bien vivifiant et fructueux d'inspirer les sociétés humaines selon cette bonne nouvelle. Cette forme qui déstabilise tant Pierre est généré par ce que l'évangéliste indique dans l'ample introduction du chapitre, qui est aussi l'introduction à toute la deuxième partie de l'évangile de Jean, qui commence avec ce repas, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Jean écrit « Jésus les aima jusqu'à l'extrême ». L'amour jusqu'à l'extrême, Ce n'est pas seulement la croix. Cela commence là, avec Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Mais pourquoi les pieds ? Pourquoi pas les mains et la tête ? D'ailleurs, c'est ce que Pierre lui dit. C'est ce que Pierre réclame tellement il a du mal à comprendre. S'il s'agit d'être lavé dans le sens de purifier, comme dans des pratiques rituelles du judaïsme et d'autres religions, ne vaudrait-il pas mieux purifier les pensées, purifier l'intelligence, la tête, ou purifier les actes, les mains ? Mais Jésus le fait remarquer à Pierre, lui et tous ceux qui écoutent la parole sont déjà purs. Il ne s'agit donc pas d'être purifié ni d'une purification supplémentaire. S'il s'agit du service traditionnel rendu à des invités qui viennent manger dans une maison, du respect qui doit leur être témoigné, Jésus aurait lavé les pieds des disciples avant le repas et pas pendant le repas. Il ne s'agit pas non plus de ce service-là. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais nous pouvons tous l'imaginer. Avoir les pieds lavés, cela procure une détente, un délassement, un soulagement. Nous nous tenons debout sur nos pieds, nous marchons grâce à nos pieds, nous ressentons aussi par nos pieds la fatigue, la douleur des chemins longs et éprouvants, la difficulté d'avancer sur une terre où ne manquent pas les cailloux, les escarpements, les fossés, les obstacles à nos marches d'humains. De cette manière, les pieds symbolisent notre humanité. Et Jésus n'a eu de cesse, tout au long de son ministère, Jésus n'a eu de cesse de remettre sur pied les personnes qu'il rencontrait. L'homme qui était aveugle de naissance, celui qui était paralysé à la piscine de Bethesda, la femme samaritaine affligée de passer à côté de sa vie, la femme adultère humiliée et menacée de mort. Jésus, le Christ, a remis sur pied celles et ceux qui étaient abattus, diminués, rétrécis. Il les a relevés, redressés, suscités et ressuscités. Il les a instaurés comme des personnes, des sujets qui ne sont plus condamnés à se traîner dans la poussière et qui n'y traîneront personne. C'est son œuvre de Christ, révélateur d'un Dieu créateur de vie, créateur d'enfants de Dieu, est-il écrit dans le prologue de l'Évangile, manière de dire que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu d'amour, et pas un amour dominateur et paternaliste qui maintiendrait les humains dans un état infantile, mais un amour source d'élan, source d'un dynamisme d'existence, un amour qui rend pleinement vivant parce que l'amour, c'est vouloir que celui ou celle qu'on aime vive. Ce n'est pas un sentiment. Ce que Jésus a accompli pour l'aveugle, pour le paralysé, pour la samaritaine, il l'accomplit aussi pour les disciples, en leur lavant les pieds. Et chacun de nous est au bénéfice, d'une autre manière, de cette œuvre du Christ qui réalise la divine volonté en notre chair humaine. Mais il y a encore plus. Si je ne te lave pas, tu n'as pas part avec moi, dit Jésus à Pierre. Avoir part avec le Christ, c'est cela que Jésus vise en lavant les pieds des disciples. Un geste qui les prépare à recevoir, à entendre, à comprendre ce que signifie être disciple de ce Christ, ce que signifie être mis sur pied, relevé, restauré, ressuscité, c'est avoir part avec lui, part à sa vie et part à son œuvre. Les disciples pourront faire ce que le Christ a fait. Comme il le dit d'ailleurs un peu plus tard dans la suite du discours, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore parce que moi je vais vers le Père. » L'amour du Christ qui révèle, qui reflète l'amour du Père, c'est de partager et de mettre en commun cette vie vivante qui lui est donnée et qui est don de vie à autrui. Et cette vie est inépuisable. Il n'en manque jamais et chacun peut en recevoir sa part, comme lorsque Jésus multipliait et partageait le pain et qu'il en est resté beaucoup plus, en plus, des paniers et des paniers. De même que le pain de la scène, lorsque nous partageons ensemble le repas du Seigneur, le pain de la scène n'est pas compté et il n'est pas non plus mérité, bien que cela ait pu se faire par le passé. Il n'est pas mérité parce qu'il est signe de cette vie donnée et partagée, une vie abondante pour que d'autres et tous puissent en bénéficier. Et c'est de cela dont il est question lorsque nous parlons de communion. L'accueil reconnaissant de la vie donnée, partagée, sans compter, sans condition, dans la confiance que Dieu manifeste à chacun de nous. Laver les pieds comme Jésus le fait, c'est effectivement un geste qui honore les personnes dont les pieds sont lavés, et ce n'est pas au détriment de celui qui les lave. Jésus le Christ ne s'abaisse pas en lavant les pieds de ses disciples. Il ne s'humilie pas. Il ne donne pas une leçon ni même un exemple d'humilité. Il le fait parce qu'il est le Maître et le Seigneur, ainsi qu'il le dit. Jésus le Christ use de toute son autorité pour honorer ses disciples. Honorer, c'est littéralement les faire grands. Jésus hausse ses disciples. Il les élève à une position qui n'est pas une position au-dessus des autres, ceux qui ne sont pas disciples, ceux qui ne sont pas juifs, je ne sais quoi, je ne sais qui. Il les élève au-dessus de la position qu'ils croyaient être la leur, celle du bas de l'échelle, celle que Pierre défendait en dessous de Jésus. Il les élève pour leur donner part avec lui en vis-à-vis. Et il le fait pour leur signifier quelle est leur grandeur d'humain, quelle est la dimension de leur humanité selon la vocation qui est la leur et celle de tout humain de vivre de vie vivante. Une dimension où sont tissées verticalité et horizontalité, où sont liés le ciel et la terre, où s'associent le divin et l'humain. Cette dimension qui rend chacun capable d'œuvrer comme Jésus le Christ, à son image. C'est dans une conscience renouvelée de soi et d'autrui que le Christ fait entrer ses disciples d'hier et d'aujourd'hui. Il le dira autrement un peu plus tard, toujours dans le discours, le dernier discours d'adieu. Il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Et plus tard, encore après Pâques, ils deviendront ses frères. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami sait ce que fait son ami. Le frère ou la sœur sait ce que fait son frère. Et ce savoir-là, ce n'est pas non plus un savoir à la manière du monde. Il n'est en rien un pouvoir. Le savoir, selon le Jésus de Jean, tient de la compréhension de ce que Jésus fait, en méditant, en réfléchissant, en interprétant son geste et tous les textes des Écritures. Ce savoir, c'est une disponibilité à autrui, une disponibilité du partage du savoir. Savoir, le savoir de ce que le Christ révèle de Dieu. Les disciples ne peuvent pas prétendre à plus. Personne ne détient de secret ni de sacré qui obligerait d'autres à s'en remettre à lui ou à elle pour comprendre, pour discerner, pour choisir et pour vivre. C'est bien un autre monde que Jésus ouvre ainsi. Une autre manière d'être au monde qu'il scelle en disant « Je vous ai donné un exemple afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous. Et ce n'est pas un rite à instaurer, ce n'est pas un exemple qui est à répéter, c'est ce qu'il signifie qui est à interpréter au fil du temps, des circonstances, des décisions, des rencontres. Et c'est une compréhension nouvelle des relations avec autrui dans laquelle entrer. Les disciples, tous les disciples, en sont capables. Ils en ont reçu l'autorité. Mettre l'autre en valeur, l'honorer, lui manifester la vocation qui est la sienne, quand bien même l'autre ne l'a pas encore entendue ou qu'il ne l'a pas encore acceptée. Ainsi, Jésus poursuit le don de l'exemple, avec juste après le don du commandement, le seul commandement de l'évangile de Jean. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Un amour qui reflète l'amour qui est Dieu dans la théologie joannique. Pas un amour paternel au sens humain, car trop souvent, amour paternel appliqué à Dieu ne porte que nos rêves de refuge, de mise à l'abri ou nos illusions d'excellence. Mais un amour qui élève, qui hausse celui ou celle qui est aimé, non pas au-dessus de quiconque, mais dans une destinée nouvelle et offerte sans condition. D'une certaine manière, comme l'écrit le théologien John Caputo, il est question d'une divine anarchie dans laquelle les relations ne s'inscrivent pas sur le modèle de l'échelle, un modèle qui se nourrit et qui nourrit l'orgueil, mais dans le modèle selon une reconnaissance partagée de la grandeur de l'autre. Et même si nous résistons, comme Pierre le fait, « Non, Seigneur, je ne suis pas digne. » Le Christ répond, « Mais si. » Si nous hésitons, « Oui, la grâce, l'amour, mais quand même. » Le Christ persiste, « Faites comme j'ai fait. » Même si quelques replis de notre âme aspirent à un chef, ou à ce que nous devenions un héros ou une héroïne de la foi, le Christ insiste, ami, frère, sœur. Et tout de nous se tient là. Amen. Je vous invite à vous lever et à vous associer par le cœur à cette confession de foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Voici le moment des annonces. En commençant par aujourd'hui, puisque le dimanche, c'est la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Comme tous les dimanches, j'ai affiché une nouvelle liste dans l'entrée, donc vous pourrez la consulter pour apporter les produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment, mais bien sûr, vous pouvez aussi en apporter d'autres en respectant ce qui est écrit sur la liste des produits non périssables, bien sûr, en paquets scellés, etc. Donc, merci de contribuer au soutien de l'épicerie qui accueille maintenant 70 familles, hein, c'est cela. La semaine prochaine, jeudi 25, il y aura à 12h30, comme tous les jeudis, la pause spirituelle dans le temple, une heure de silence, de musique, de prière, puis de méditation et de partage autour d'un texte biblique. Donc jeudi 25 ici. Et puis à 19h30, ce sera la réunion du groupe des jeunes adultes du foyer de l'âme. Et le thème de cette rencontre et de l'échange, ce sera le pouvoir, justement. Et dimanche prochain, ce sera le culte de Pentecôte, un culte avec scène, partage de la scène, un culte au cours duquel aussi nous pourrons entourer Mathias Adi, puisqu'il recevra le baptême en ce culte de Pentecôte. Donc j'espère que seront aussi nombreux que joyeux pour cette fête. Et puis le lundi 29, le lundi de Pentecôte, comme annoncé depuis quelques dimanches dans le bulletin et également à l'affichage au fond du temple et dans l'entrée, il y aura une rencontre interreligieuse au foyer de l'âme dans la salle du deuxième étage de 12h30 à 14h30 qui commencera par un partage d'un repas. Si vous souhaitez venir, vous pouvez également apporter quelque chose à partager en privilégiant les plats végétariens, s'il vous plaît. Et donc il y a deux personnes qui ont déjà proposé de mettre la table, d'installer la salle du deuxième avec moi. Si une troisième est disponible, ce serait absolument parfait. Et si vous, même si vous venez simplement, dites-le moi aussi, que nous ayons une petite idée du nombre de personnes accueillies et accueillantes. Et ce sera aussi l'occasion d'écouter les divers représentants alors, du judaïsme, de l'islam, du bouddhisme, évidemment nos frères et sœurs catholiques, de s'exprimer sur ce thème du partage. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Vous n'avez rien oublié ? Vous êtes sûr ?
Simplement pour dire qu'il y aura une grande rencontre lundi entre la Fédération protestante et toutes les organisations musulmanes de France, enfin toutes les majoritaires dirons-nous, avec une conférence débat qui est destinée à réfléchir à l'application de la loi sur le respect des valeurs de la République. Protestants et musulmans ayant pensé qu'ils ont un fonctionnement un peu similaire et que ça pouvait être intéressant de réfléchir en commun sur la façon dont nos religions peuvent s'insérer dans la République. Voilà, et je pensais que c'était intéressant que tout le monde le sache. C'est à l'initiative du groupe d'amitié islamo-chrétien. Et donc, avec ce rapprochement avec la Fédération protestante. Et je pense que dans la société où nous vivons, des rencontres comme celle-là et comme celle qui aura lieu lundi prochain à la paroisse sont importantes. Voilà.
C'est quand cet échange, cette rencontre débat ? Oui, à quelle heure ? C'est public ?
Non, c'est pas public.
Ah, d'accord. Oui. Et puis, c'est ce week-end, le synode de l'Église protestante unie de France à Noisy-le-Grand. Et les délégués synodaux venus de toutes les régions, les responsables des différentes commissions, des différentes régions, des différents conseils et commissions nationales de l'Église sont donc rassemblés depuis jeudi soir pour travailler ensemble sur le thème synodal. Et d'ailleurs, notre amie Isabelle Veillé, qui est au Conseil de la Fédération protestante, y représente la Fédération protestante. Alors, s'il n'y a plus d'annonces à partager, bien je vous invite à faire un geste aussi bien de louange que de solidarité dans ce temps de l'offrande. Je vois que, voilà, on n'a pas oublié cette fois-ci le panier connecté pour ceux qui n'ont pas d'espèces dans leur poche. Donc, merci de faire signe à Jean-Paul qui tient le panier si vous êtes intéressé. Et puis, pendant l'offrande, comme à chaque culte, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter au cantique 284, « Ta volonté, Seigneur mon Dieu ».
Thank you.
nous rassemblons dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, même si nous sommes traversés de peur, d'ambition, d'agressivité, d'amertume ou d'orgueil, nous voulons aimer comme le Christ a aimé. Même si notre tranquillité et nos conforts doivent être dérangés, nous voulons nous honorer les uns les autres et honorer celles et ceux que nous rencontrons. Même si nous ne sommes ni sages ni puissants dans ce monde, nous voulons prendre part à l'œuvre du Christ. Nous t'en prions, aide-nous à élargir en nous l'espace de l'amour, l'espace de la confiance, l'espace de la reconnaissance. Aide-nous à voir et à entendre le monde selon la justice, à comprendre nos relations selon la bonté, à interpréter nos existences selon la fidélité à l'Évangile. Dans notre prière, nous portons le synode de l'Église unie en ce moment rassemblée. Éclaire cette assemblée éternelle afin que ses décisions soient porteuses d'évangile. Et là où nous ne pouvons pas aller, là où nous ne pouvons pas aider, nous allons quand même dans la prière auprès des exilés et des naufragés, auprès des blessés, des guerres et des conflits de toutes sortes, auprès des affamés de pain et d'amitié. Et en communion avec le Christ, notre Sauveur et notre frère, nous prions ensemble, à voix haute ou en silence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation. Ensuite, nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Une exhortation d'après un extrait d'un texte du pasteur Alain Ouzio. Mon frère, ma sœur, heureux es-tu si tu aimes. Heureux es-tu si tu n'as que l'amour, si tu ne peux rien faire d'autre pour ton prochain que de l'aimer. Heureux es-tu si ton amour est ta seule foi et ta seule espérance, car par l'amour, tu loues Dieu mieux que ceux qui ont la foi et l'espérance sans avoir l'amour. Mon frère, ma sœur, heureux es-tu si l'amour te fait signe, même si les chemins sur lesquels il t'entraîne sont rudes et escarpés, car alors, tu ressembles au Christ. Amen. Amen. Amis, frères et sœurs, que chaque jour demeure en vous la confiance d'être aimé par le Père, accompagné par le Fils et soutenu par l'Esprit. Et que cette confiance vous donne l'audace de vivre et d'annoncer l'Évangile partout où vous irez. Amen.